On sert un Dieu de surprise, n'est-ce pas? J'avais dit à Manon cette semaine, dit Manon, on s'évade, on s'en va, on fait quelque chose, et on était super occupés. On avait des maisons, jeudi, à maison, des invités, et puis, Pasteur Luc, il dit, peux-tu remplacer Pasteur Stéphane? Je crois qu'il va pas bien, donc c'est pour ça qu'il est pas là matin, il y a eu le COVID. Donc, ça court encore, cette bébite-là. Elle est tenace. Donc, gloire à Dieu. Donc, ce n'était pas prévu qu'il soit moi ce matin, mais je suis tellement heureux. Moi, je dis toujours que je m'en viens ici. C'est ma famille. Ça fait un an et demi. Hallelujah. Je commence à vous connaître, là. Commencez à connaître mes défauts, j'espère. Gloire à Dieu. Parce que moi, je commence à connaître les votes un petit peu aussi. N'oubliez pas. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, je pense, je voulais prêcher quand on m'a appelé, j'avais quoi qui... Moi, je m'en vais avec ça, puis on va changer de sujet. Donc, j'aimerais parler ce matin, puis ça va bien dans le thème qu'on est en train de faire, que vous avez fait ce matin, une prière qui perce le ciel. Combien croient que la prière peut percer le ciel? Dites-moi un gros amen. Hallelujah. Dis à ton frère, à ta soeur, oui, 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 ça fonctionne. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, on va regarder dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 au verset 7, une prière qui perce le ciel. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 au verset 7, lisons ensemble. « Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et puis lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Peninna, sa femme, et tous les fils et toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodigeait des mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Peninna la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. » Seigneur, on veut te remercier pour ce temps de grâce, ce temps, Seigneur, tu nous as donné pour la louange, pour l'adoration, le temps, Seigneur, qu'on se rappelle également que tu as fait pour nous, et Seigneur, qu'on se rappelle également que tu viens rechercher ta bien-aimée. Seigneur, également, ce matin, donne-moi l'assurance, Seigneur, de donner le message avec assurance. Seigneur, viens nous parler, viens nous encourager, viens nous exhorter, Seigneur, à prier avec ferveur. Seigneur, bénis ta parole, Seigneur, bénis ton serviteur et bénis ton peuple ce matin, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Juste avant de commencer également, ce soir, ceux qui sont libres, je serai sur le pasteur Stéphane, vous comprenez pourquoi. Donc, je vais... Il dit, tu peux venir coucher à la maison? Je dis, non. Pas de COVID pour moi. Non, merci, je viens de l'avoir. Non. Je coupe ça dans le nom de Jésus. Hallelujah. Il dit, Stéphane, guéris, mais loin de moi. Hallelujah. Gloire à Dieu. Donc, revenons à nos sauces. Ce récit nous enseigne maintenant qu'un homme du nom de Akena a deux femmes. Bon, deux femmes. C'est un peu la norme aujourd'hui à bien des endroits, n'est-ce pas? Et donc, l'un s'appelait Anne et l'autre Peninna. Et Peninna avait des enfants avec Akena, mais Anne n'avait point d'enfants. Et pour aggraver le cas de la situation d'Anne, Anne devait partager son mari Elkana avec sa deuxième femme Peninna. Bon, on démêle un peu l'histoire. Donc, et Peninna est une femme qui donnait la vie très dure vraiment à Anne, mais Elkana aimait Anne et il la bénissait au double. Anne également était continuellement dans le tourment parce qu'elle n'a pas d'enfant. Mais cela, Dieu l'avait rendue stérile. Écoutez bien, cette femme vit dans une douleur. Une femme juive doit avoir des enfants. Donc, une femme juive qui n'a pas d'enfants, ça ne regarde pas bien. Une femme juive doit avoir des enfants. Donc, cette femme, elle est désespérée. Elle voit Pénina qu'elle a des enfants. Et c'est frustrant, c'est décourageant. Dans sa douleur, elle est désespérée. Anne est déterminée à avoir un enfant. Voyez-vous, on va regarder tantôt quelques clés pour la réussite de la prière. Une grande des réussites, c'est la détermination. Dis avec moi, détermination. Sans la détermination, c'est difficile d'aller plus loin. Déterminée, Anne est déterminée à toucher le trône de la grâce de Dieu pour que sa prière soit exaucée. Sommes-nous la question? Sommes-nous déterminés à voir nos prières exaucées? Êtes-vous déterminé à toucher le trône de grâce de Dieu? Êtes-vous déterminé d'avoir des réponses à vos prières? Êtes-vous déterminé à dire, il faut que ça change? Je veux avoir quelque chose. Anne croit que Dieu sera son rémunérateur, soit de pourvoir à un enfant. Donc, 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 11, Anne se leva. Après qu'on l'eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près des poteaux du temple de l'Éternel et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et il versait des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mort, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » La prière d'Anne qu'on va regarder ce matin va changer sa vie au complet. Anne va prendre une décision qui lui permet de vivre un moment particulier, un moment intense dans la prière de Dieu. Et nous avons besoin d'être dans la même situation morale et spirituelle, d'être déterminé comme Anne à aller chercher une victoire à quelque part, avoir une réponse, que Dieu veut lui donner un enfant. Alléluia! Êtes-vous déterminé à ce point-là d'avoir quelque chose de la part de Dieu? Anne souffre, Anne vit de l'amertume, Anne vit un échec, elle n'a pas d'enfant. Pour une femme juive, comme j'ai dit tantôt, ça ne passe pas. Donc, le fait de ne pas avoir d'enfant, ça lui apporte déception, découragement et affliction. Vous savez, j'aimerais dire que c'est dans nos faiblesses, dans nos désarrois, dans nos déceptions, dans nos découragements, qu'on se sent le plus souvent poussé à prier selon nos besoins. Savez-vous pourquoi? Ça démontre notre faiblesse également spirituelle devant le Seigneur. On réalise que ça prend l'intervention du Seigneur pour avoir des réponses à nos prières et de changer la situation. Jésus a dit, Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux, ça signifie littéralement bienheureux. Jésus parle du bien-être ici que Jésus accorde à ses enfants. Le monde considère, vous savez, le bonheur peut-être atteint par les richesses, par l'amusement, par les loisirs de ce monde et les choses semblables. Mais la vérité est autre. Être pauvre en esprit, selon la Bible, selon la culture de l'époque et encore aujourd'hui, la caractéristique de quelqu'un qui est pauvre en esprit, c'est le contraire de l'autosuffisance que le monde recherche ailleurs. Être pauvre en esprit, c'est reconnaître son impuissance devant le Seigneur. C'est reconnaître que tu n'as pas la puissance pour changer les choses et que tu dois apprendre à dépendre de Dieu. Alléluia! Les pauvres en esprit ressentent leurs besoins spirituels et attendent au Seigneur. Ils s'attendent au Seigneur pour que Dieu puisse les combler. Dites-moi un grand amen le matin. Est-ce que c'est vrai pour vous? Est-ce que c'est vrai pour votre vie que vous savez que Dieu seul peut changer votre situation? Et c'est le cas d'Anne. Anne se sent impuissante pour enfanter un enfant. Et en plus, elle a de la concurrence Pénina que des enfants. Ce qui est étonnant, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui est étonnant, qu'est-ce qu'on va voir ce matin, nous avons le même potentiel qu'Anne pour changer les situations. Nous pouvons vivre désespérément, On peut vivre des situations frustrantes, décourageantes et des situations désespérées. Et cela, ça peut nous conduire dans des prières incroyables, puissantes, qu'on va exercer, qui va faire bouger le bras de Dieu. Combien sont d'accord avec moi? Dieu veut bouger. Dis à la personne à côté de toi, Dieu veut bouger. Dieu veut bouger. Est-ce que tu es prêt à bouger avec le cœur de Dieu? Alléluia! Dieu veut bouger. Je vous dis, malgré vos douleurs, malgré vos déceptions, Dieu peut changer ta destinée comme ça. Dans un clin d'œil, dans un... Tout peut changer. Peu importe ce que vous vivez avec Dieu le Père, alléluia, dans la puissance du Saint-Esprit, tout peut changer. J'aimerais regarder avec vous ce matin quatre points de prière pour être exaucé. Le premier point que je veux regarder avec vous, la prière, c'est un élan de cœur, premièrement. Donc, dans notre récit, Anne est déterminée à ce que le Seigneur écoute sa prière. Elle veut un enfant. Cette femme, on peut dire dans le psaume, lisons ensemble le psaume 37, versets 4 et 5. Qu'est-ce qui est écrit? Lisez-le avec moi à haute voix. Qu'est-ce qui est écrit? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera son cœur désir. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, on voit ici deux choses. Premièrement, il dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Faire de l'Éternel ses délices, pour moi en tout cas, signifie c'est de rechercher premièrement sa présence. Quand Jésus est au centre de notre vie, quand on lui fait de nos délices, quand on le sert, quand on s'alimente de sa parole, quand on parle de lui, quand on fait confiance en Dieu en toutes choses, quand on se soumet à lui, quand on fait du bien autour de nous, quand nous parlons de l'amour de Jésus, quand on se réjouit en lui, on fait de l'Éternel nos délices. Alléluia, parce que Dieu est le premier dans ta vie. On trouve la joie, on trouve la paix. Malgré, je pourrais dire, vos luttes, malgré vos combats, malgré vos déceptions, même si tu ne vois rien, je reste dans la foi. Allô? Donc, ça ne veut pas dire parce que, tu sais, on a des langages, les frères et les sœurs. « Oh, moi, je ne vois rien. On dirait que Dieu ne m'entend pas. Je prie, puis ça marche. » Allô? Est-ce que vous entendez ça des fois? Ah oui, oui, sûrement. Pas de cachette, là. C'est des choses qu'on entend et c'est des choses réelles. Vous savez, je dirais souvent, reste dans la foi. Donc, reste dans la foi avec ton Dieu. Jérémie 17, versets 7 et 8, il dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il était qu'un homme planté près des eaux qui entend ses racines de leur courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année. » Écoutez bien, dans l'année, qu'est-ce qui est écrit? Oh, on n'aime pas le mot sécheresse. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Dans l'année de la sécheresse, il porte du fruit. Allô? Donc, dis pas que tu ne vois rien, puis que Dieu n'entend pas, puis que Dieu ne te parle pas. Non, il y a des temps où Dieu permet le silence. On voit ici le mot bénir. Donc, qui vient du mot barak. Barak, ça veut dire bénédiction. Ça veut dire faveur. Donc, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, car il a la bénédiction et la faveur de Dieu. Dites-moi un grand amen. J'ai la faveur et la bénédiction de Dieu. Donc, car tu te confies en lui, tu es en sécurité comme un père qui te prend dans ses bras. Alléluia. Et confier, ça veut dire lui faire confiance. Qu'il s'ouvre à son cœur, que tu ouvres ton cœur à Dieu. Qu'il y a un cœur à cœur, des pensées intimes avec Dieu, où les secrets les plus intimes sont dits face au Seigneur. On n'a rien à cacher à Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas là pour te rejeter. Dieu n'est pas là pour t'ignorer, mais il entend le cri de ton cœur. Combien le croient? Combien croient que Dieu entend ta prière? Alléluia! Donc, il entend le soupir même de ton cœur. Donc, car Dieu est ton espérance. L'espérance, c'est des sentiments qui portent à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Écoutez bien, c'est l'espoir de voir Dieu agir. C'est la première bonne nouvelle. Tu attends des réponses de Dieu. Tu as besoin de cela. Mais il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Même si c'est difficile, même si tu penses que tu vois rien, en gardant l'espérance, Jérémie 17, 8, tu seras comme un arbre planté près des courants d'eau. L'espérance, l'espérance. Tu crois que Dieu est là. Tu t'enracines avec lui. Alléluia. Même si tu te sens sèche, tu seras comme un arbre planté près des courants d'eau, malgré que tu puisses dire qu'il n'y a rien. Donc, tu dois, l'espérance, c'est s'accrocher aux promesses de Dieu. Tu bannis. La première chose qu'il faut faire, c'est bannir le doute. Le fameux doute. Je doute de ci, je doute de ça, je ne suis pas certain de ci. Ah, on doute de tout. Hein? Mais l'espoir, la détermination dans l'espoir t'anime, car tu sais, la parole te dit, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il sera avec nous à tous les jours. Tu as des promesses. Alléluia. Reste dans l'espoir de la réalisation de tes prières qu'ils soient exaucés. Il y a dans l'homme intérieur une source d'eau vive, que je dirais, qui te dit, garde l'espérance. Garde l'espoir. Frères et sœurs, gardez l'espérance. Ça veut dire tu gardes le cap. Alléluia. Tu gardes les choses. Tu ne regardes pas en arrière, mais tu regardes toujours vers l'avant. Tu ne regardes pas en arrière quand tu regardes. C'est énervant. Mais quand tu regardes en avant, il y a de l'espoir. Alléluia. Tu restes dans la paix de ton Dieu. Oh, alléluia. Cet espoir te fait continuer à persévérer. C'est le fait que l'Esprit de Dieu qui vit en toi t'alimente ton âme. La vie intérieure, l'homme nouveau va tirer sa sève de la parole de Dieu. Alléluia. À l'intérieur, quand tu lis la parole de Dieu, elle vient dans ton âme. Alléluia. Elle te donne des solutions. Elle vient te dire, lâche pas mon âme. Continue, je suis avec toi. Alléluia. Tu tires la sève des promesses de la parole de Dieu. Alléluia. Et tu vas continuer à porter du fruit. Parce que ton espérance ne repose pas sur toi, mais sur lui qui te fait porter le fruit. Car c'est sa présence qui t'accompagne. Combien ont besoin de la présence de Dieu? Combien ont besoin de vivre dans cette intimité avec Dieu? La foi, elle doit être ta source de vie. Donc, Dieu n'est pas menteur. Alléluia! Dieu n'est pas menteur. Fait que douter de la parole de Dieu, c'est pas correct. Parce que Dieu, s'il l'a écrit, c'est pour notre bien. Si Dieu l'a écrit, parce qu'il y a des promesses. Donc, Dieu ne ment pas contre lui-même. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu menteur. Donc, cela, quand tu crois en Dieu, tu fais des délices à l'Éternel. Je crois que si nous faisons cela, le Seigneur prend plaisir à exaucer la prière, car il voit ton amour pour lui. Et le psaume 37, verset 5, il dit également, il dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. » Recommande ton sort à l'Éternel. Donc, si tu as des sujets, si tu veux exaucer, donc commence à mettre tes sujets dans mon Seigneur. Je vais le développer un petit peu plus loin. Lorsqu'on fait Dieu en premier, si on se met en lui en premier, si on lui fait confiance, quand on prie, dans vos désirs, dans vos projets, ou soit dans vos difficultés, Dieu lui-même suscite dans notre cœur des désirs qui se chargent d'accomplir. Allô? Dieu voit ta prière. C'est ça que je veux dire à matin. Dieu voit les intimes choses de ta vie. Et dans ce cas, Anne, le chagrin de Anne, les souffrances de Anne, ses souffrances qu'elle vit, ses larmes qu'elle vit, c'est sa sincérité de la supplication qui monte vers le ciel. Je peux dire, comme Jean, qui avait la tête blottie sur le cœur de Jésus. Il attendait le battement du cœur de Jésus, j'imagine. Alléluia, comme Anne qui sent le cœur de Dieu, qui est blotti. Elle est confiante en Dieu. Elle désire que le cœur soit à cœur avec lui. Alléluia. Est-ce que c'est encore quelque chose? Anne, dans sa prière, elle a cette confiance que Dieu l'entend. Dieu voit son désir et Dieu voit vos désirs. Et c'est normal que vous ayez des désirs. Dites avec moi, c'est normal. C'est normal. J'ai des désirs, c'est normal. Ne pas avoir de désirs, c'est pas normal. Donc, avoir des désirs, c'est normal. Si vous n'avez pas de désir, venez me voir, après, je vais vous en donner, moi, des désirs. Alléluia. Je suis plein de désirs, moi. Jésus, quoi. Donc, Dieu voit le désir. Et elle supplie Dieu d'accomplir sa prière. Anne, on voit que c'est ses larmes. Des larmes de souffrance qui montent. Psaume 6, versets 9 et 10. « Car l'Éternel entend mes larmes. » Entends mes larmes, c'est des larmes. C'est difficile d'entendre des larmes. Hein? L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. L'intensité de ses supplications d'âme s'adresse à Dieu, car elle sait et elle reconnaît qu'il est le seul en position d'autorité de changer la situation. Et c'est pour ça qu'on peut lire dans la parole, « Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. » Il n'y aura jamais de réponse. Mais si tu confies en Dieu, il y aura des réponses. Son cœur, son désir, ça s'exprime. Elle veut être exaucée. Quel est votre désir? Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur vous accorde le matin? Allô? Avez-vous des désirs? Avez-vous des attentes? Attendez pas votre mort, ou être trop tard. Là. Qu'est-ce que vous attendez de votre vivant? Avez-vous un désir qui vous anime et qui vous passionne? Non, reste... Soyez réceptifs. Avez-vous quelque chose qui vous passionne? Avez-vous un désir qui vous domine ce matin? Anne ne fait pas une prière superficielle. Anne, elle supplie Dieu. La supplication, c'est des prières fortes, avec larmes, avec ce qui crie vers Dieu. Des prières de cœur, des prières qui montent vers le trône de la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu veut notre cœur. Et Dieu désire que tu y ailles dans sa présence. Et pleurer, ça fait du bien. Je vous le dis depuis un an et demi. Pleure devant le Seigneur, ça fait du bien. Alléluia. Relâche, qu'est-ce que tu dois relâcher? La détermination dans sa sincérité et son humilité, se voir un enfant. Et ça devrait être notre source d'inspiration ce matin quand nous retrouvons dans des situations que Dieu seul peut changer votre situation. Il y a une histoire dans Luc chapitre 11 qu'une femme qui veut qu'un juge qui lui accorde qu'elle soit entendue. Et le juge ne veut rien savoir, mais cette femme, elle fait quelque chose, elle est déterminée. Elle veut être entendue, elle persévère, elle continue, elle frappe à la porte, elle frappe et elle frappe. Elle n'a pas frappé juste une fois, elle va dire, c'est fini. Elle est revenue, revenez à la charge dans la prière. Alors, reviens! Nous, on priait, puis c'est fini, puis on a tout oublié. Reviens à la charge. Donc, elle ne se décourage pas. Elle frappe jusqu'au jour que le juge va lui dire, Luc 11, 5, « Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne devienne pas sans cesse me rompre la tête. » Il n'avait là. Es-tu fatiguant, elle? Elle vient toujours marceler. Elle, tu sais, tu t'imagines que le juge en a plein la calotte, hein? Mais cette femme a été déterminante. La ténacité a un prix. La persévérance apporte l'exaucement. Allô? Matthieu 8:8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Donc, peu importe votre situation ce matin, continuez à demander. Continuez à frapper, continuez à persévérer. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. La Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu. Vous savez, j'aimerais prendre juste un petit recul. Vous savez, l'histoire de l'Ancien Testament, ou l'histoire du tabernacle de l'Ancien Testament, c'est riche. C'est plein de détails dans ça. J'ai sorti quelques petits détails. Vous savez, dans le tabernacle, il y avait trois grandes parties. Il y avait la porte d'entrée qu'on appelle le parvis. Il y avait le lieu saint où que se trouvait la menorah qui avait la lampe à sept branches. Il y avait aussi la table des pains. Et aussi, il y avait l'autel d'or qui était juste en face du voile où quand le sacrificateur allait une fois par année dans le lieu saint, mais elle était juste en face du grand voile. Et cet autel d'or qui était devant le voile, brûlait continuellement, deux fois par jour, continuellement, cette odeur d'or, on brûlait des parfums, d'un parfum précis. Vous lirez dans Exode 30, ceux qui prennent des notes, versets 23 à 25, vous verrez la composition de cette huile. Et ce parfum était interdit d'être utilisé ailleurs. Il était interdit, il était réservé pour l'autel d'or. Il était réservé pour faire brûler des parfums. C'est un parfum saint, c'est un parfum réservé. Ce parfum devait brûler à chaque matin, chaque soir, par le souverain sacrificateur Aaron. Et pour faire brûler l'encens, où je veux en venir, ça prenait du feu. Le feu qui était utilisé pour l'autel des parfums était alimenté par les braises qui étaient issues des holocaustes de chaque matin et de chaque soir. Écoutez bien, et sur cet autel des parfums, il n'était pas offert des victimes sacrificielles comme qui était fait à l'autel des reins. Là. Comme ce parfum est précieux, on prenait la braise du matin ou du soir, puis on prenait cette braise-là, on allait dans le lieu saint, puis on faisait brûler le parfum. Donc, aucun autre feu était toléré pour embraser le parfum. Et vous lirez là, qu'avec les deux fils d'Élie qui emportaient un feu étranger, vous allez mieux saisir. Donc, pour avoir ce feu, donc, ça prenait un sacrifice pour faire monter les louanges à Dieu. Donc, Dieu demandait quelque chose. Allô? Donc, quand on offre notre cœur à Dieu, on offre quelque chose. Et Dieu voulait de la fraîcheur. Dieu veut qu'on offre notre cœur. Dieu veut que notre cœur puisse faire monter nos louanges, nos prières, notre adoration comme le souverain sacrificateur. Seuls les parfums de bonne odeur étaient brûlés sur l'autel des holocaustes. Pas sur l'autel des holocaustes, sur l'autel des parfums. L'odeur agréable se dégageait et montait devant Dieu. Cet encens, ça nous représente. Ça nous a indiqué dans le psaume 141, verset 2, ça nous dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Wow! Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc, ce parfum de bonne odeur, c'est votre vie. Notre parfum à nous, c'est notre vie de prière, c'est notre vie de consécration qui doit monter devant le trône de la grâce de Dieu qui monte vers le ciel. Ce sont nos prières, ce sont nos adorations, ce sont nos louanges. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Dans ma louange, dans mon adoration, je n'ai mon amour pour Jésus. Et c'est pour ça que je dis souvent, dans l'Église, quand on arrive dans la communauté de l'Église, nos cœurs doivent s'élever dans la présence de Dieu, d'être capables de se dégager et lui donner un culte agréable. Donc, notre vie démontre quelque chose. Hallelujah! Quand tu viens à l'Église, sois fier de louer et d'adorer ton Dieu. Hallelujah! Dieu veut des cultes vivants. Vous avez été sauvés, hallelujah, donnez-lui toute la grâce. Lorsque ma langue lui donne la louange, l'action de grâce, le remerciement pour votre salut, ça démontre votre amour pour lui. Hallelujah. Soyons pas des cartes fermées, mais ouvrons notre bouche pour des bonnes choses. Hallelujah, on est capable de le faire pour d'autres choses, mais pour Dieu, donnez-lui le meilleur. Donne-lui le meilleur, je veux lui donner le meilleur. Je veux pas lui donner rien d'autre que le meilleur. Hallelujah. Vous soumettez à Dieu à travers la louange et l'adoration. C'est votre parfum personnel devant Dieu qui monte vers le trône de la grâce. Romains 12, 1. Je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est qu'il sera de votre part un culte raisonnable. Donc, je pourrais dire que ma vie entière sente la bonne odeur, que ça soit odorifique, que ça monte dans l'odorat de Dieu. Oh, c'est un beau genou, hein? Que le Seigneur entend ça, ça sent bon. Alléluia! C'est ça la vraie louange. Dieu veut ça. Ça sent bon, hallelujah! Avons-nous encore ce désir de dégager le bon parfum? Est-ce que nous avons encore des temps de dévotion de qualité? dans nos cultes personnels, dans la louange, dans l'adoration, dans l'assemblée. Souvent, on oublie ces choses-là. Sentons-nous également la bonne odeur devant notre société? La flamme brûle-t-il encore dans notre cœur? Notre amour premier est-elle encore présente? Notre cœur a-t-il soif de rencontrer encore le Dieu vivant? Alléluia! Ou vous avez perdu le désir, comme Éphèse, qui a perdu cet désir de la première amour. Si vous faites l'histoire d'Éphèse, il y a eu un réveil avec Paul, un super de gros réveil. Et 40 ans plus tard, Jean nous écrit, c'est des églises, et quand vous lisez Apocalypse, c'est l'église persécutée. C'est pas l'église du « ha, 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 t'étais beau », c'est une église qui le dure, c'est l'église qui est persécutée. Et Jean, il prend le temps, Jésus prend le temps, il dit, il crie à Éphèse, il dit, ils ont perdu la première flamme. Une église qui était dans l'évangélisation, une église qui témoignait, une église qui prospérait, une église qui était réunie, une église qui avait des soirées de réveil, une église qui était dans l'unité et dans le réveil. Avons-nous perdu le feu, mes amis? Alléluia! De s'approcher du cœur de Dieu. Je pense que ça vous parle un petit peu. Sinon, je dirais qu'il faut faire du ménage pour retrouver la fougue, mon amour, mon consécration. Le Saint-Esprit veut rallumer mon odeur autorifique. Dieu veut que ça demande le sacrifice de ta vie. Et ce sacrifice, tu amènes la braise. Qu'est-ce qui reste? Tu as eu un sacrifice devant Dieu. Et avons-nous encore cette braise pour allumer le parfum? Avons-nous cette braise? Avons-nous encore ce désir d'alimenter le bon parfum? Vous savez, autrefois, on brûlait les vieilles granges, je l'ai déjà rencontré, quand on brûlait les vieilles granges pour animer des nouvelles granges, mettre des nouvelles granges, quand on les brûlait, il y avait toutes sortes de bestioles, des petites souris, des petits couleuvres, il y avait toutes sortes de petites affaires qui sortaient. Même chose, Dieu veut sortir ces petites affaires-là. Allô? Peut-être des petites bébites, là, qui... Allô? Peut-être des petites bébites un matin là, qui doivent sortir de vos vies. N'avez-vous, vous? En tout cas, venez-moi, moi j'en ai. Il faut me faire violence à des places. Alléluia. Donc, si on veut vivre une vie épanouie, il faut faire du ménage. Avec moi, il faut que je fasse du ménage. Oh, c'est pas facile, mais je vais passer le balai. Dieu ne dit pas, c'est ta femme qui va passer le balai. Il dit, c'est toi qui vas passer le balai dans ta vie. Allô? Souvent, soyons comme cette femme, Marc 14, 30, elle tenait un vase d'alphal qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur Jésus. Une femme qui va payer le prix pour son amour, il n'y a pas de prix, cette femme a pris, qu'est-ce qui était de plus cher, le parfum de première, le nard, vous savez, c'est des parfums anciens. Et pour fabriquer ces parfums, un petit cours d'histoire, ça prenait une plante qui venait des montagnes d'Himalaya, au Népal. Donc, on allait chercher des fleurs, puis on faisait le parfum. Donc, ça coûtait cher, parce que l'exportation, hein, tu sais, la mode des femmes, l'exportation, les belles habitudes, ça coûte cher, ces affaires-là. Mais c'était un parfum de luxe. Ah, elle n'a pas regardé au prix. Elle dit, pas grave, le prix. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Je vais y démontrer par mon amour. Je vais y donner ce qui me coûte le plus cher. Il a vidé mon compte de banque, mais ce n'est pas grave. Je lui donne. Ça y appartient. Alléluia. Vous savez, elle aimait se trouver dans sa présence, de l'aimer. Son amour était vrai. Donc, elle le fait par consécration, par affection. Donc, vous savez, je dis souvent, nos bonnes actions ou notre bonne odeur, ça se démontre également par nos actions, par nos attitudes et par nos comportements. Allô? Ouch! Et c'est ça qui doit se passer dans ta vie, en donnant la vie de l'Église. L'Église, là, on vient une fois par semaine à peu près, hein? Mais qu'est-ce qui reste des 6 autres jours? Nos actions, nos attitudes, nos comportements. On a tous à évoluer avec ces choses-là. On a tous obéissance à la parole de Dieu, d'aimer son œuvre qui vient pour nous transformer. Anne va faire quelque chose d'extraordinaire. Lisons verset 1 au verset 13. Il faut que j'avance. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un mâle, un enfant mâle, je te se consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête, comme qu'elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observait sa bouche, Anne parlait de son cœur, il ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Il y pensait qu'elle était ivre. » Écoutez bien, Anne, son cœur est ouvert. Elle fait une promesse à Dieu. « Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et tu n'oublies pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Une prière précise. Et je vais vous le redire un matin. Quand vous priez, priez précisément. Moi, quand j'ai prié pour mon auto, je vous l'ai déjà dit, je la voulais bleue. Je ne la voulais pas rouge, je la voulais bleue. Quand on s'est dit, on a dit, « Seigneur, moi, j'aimerais ça, dans mon cœur, avoir une Corolla bleue. J'aimerais avoir l'air climatisé dedans. On voyage, j'ai chaud. On a exposé nos besoins. On a reçu qu'est-ce qu'on a devant la porte. » Priez précisément. Même les détails les plus insignifiants, priez dans ce sens-là. Faites connaître vos besoins. Alléluia. Donc, Dieu désire que tu pries pour ton besoin. Pas si tu as un besoin là, prie pour ton besoin. Explique-lui c'est quoi tu veux. Allô? Oh, pourquoi prier pour ça? Parce que Dieu veut entendre. Dieu est précis. Dieu va te donner qu'est-ce que tu, ton cœur, qu'est-ce qui est bon pour toi. Alléluia. Donc, il dit, je vais consacrer mon fils et mon enfant. Alléluia. Anne donne des détails de la promesse qu'elle veut faire à Dieu. Comme Abraham qui était prêt à sacrifier Isaac, l'enfant de la promesse. C'était de démontrer du sérieux. Dieu veut votre sérieux. Et je trouve ça malheureux parfois qu'on prend ça trop à la légère. Tout le monde est énervé avec ce qui se passe avec Israël, le Saint-Cyr. Est-ce que c'est vrai? Tout le monde a peur à la guerre. Tout le monde a peur que ça pète. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Ça va arriver. Que tu veux pas, ça va arriver. Que ton cœur soit prêt. Alléluia. Qu'il soit prêt dans la paix. Alléluia. Cette femme pleure devant Dieu. Cette femme, elle demande, Seigneur, pleurez. Écoutez bien, pleurez. J'ai sorti ça du frère Morissette qui a dit, pleurez devant le Seigneur. C'est nos larmes qui remplacent vos mots que l'on ne peut pas exprimer autrement. Nos larmes qui sont remplacées donc par des mots qu'on ne peut pas dire. Vous savez, on peut être comme Anne ce matin. Il peut nous arriver d'avoir de la misère à prier, même si on murmure devant le Seigneur. Pleurer veut dire que vos larmes s'expriment par vos larmes et non par vos mots. Wow, c'est bon, hein? Écrivez ça, là. Alléluia. Donc, Dieu voit ces choses-là. Alléluia. J'irai encore le psaume 56, verset 9. « Tu comptes les pas de ma vie errante. » Recueille mes larmes dans tes outres, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Dieu voit tes larmes couler. Wow, c'est gros, hein? Il dit, mets-les dans tes outres. Alléluia. Dieu n'échappe rien. Ah, vous n'avez pas dit un gros amen, j'ai rien entendu. Dieu, ça coule, puis il prend ça là, puis il voit ta souffrance. Alléluia. Est-ce que c'est un Dieu d'amour? Alléluia. Non. Et pourtant, elle a trouvé la faveur de Dieu. Troisièmement, j'avancerai. Troisièmement, la prière, il y a de l'opposition spirituelle. Même si Anne, la prière de Anne, s'est levée avec ferveur, un homme qui aurait dû avoir un grand discernement, même il ne fait aucun coute, aucune compréhension avec Anne, même il se montre indigne devant, humiliant et injuste devant Anne. Lisons ensemble, 1 Samuel 1, verset 13 à 16. Anne parlait dans son cœur, il ne fait que remuer les lèvres, mais elle n'entendit point sa voix, il y pensait qu'elle était ivre. Elle lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je n'ai point bu ni de vin, ni de boisson enivrant, mais je répandrai mon âme devant l'Éternel. » Il dit, « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de ma douleur est mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. » Le souverain sacrificateur était insensible à la souffrance d'Anne. Élie a confondu la prière d'Anne à quelqu'un qui était en état d'ébriété. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, puis je vais développer très vite. Anne ne se laissera pas intimider à travers cela. Elle ne perdit pas l'esprit de prière. Si nous prions sincèrement, alléluia, pour rencontrer le Seigneur, vous devez vous attendre à des combats spirituels. Allô? L'ennemi n'aime pas l'audacieux. Quand que les gens sont déterminés, il y aura toujours des combats. On dit souvent, il est celui qui est capable de mettre les bâtons dans les roues, qui vient de nous attaquer, qui vient mettre de l'opposition. Il va essayer de vous décourager. Il va vous faire obstruction dans vos pensées. Je lisais quelque chose cette semaine, un texte qui nous disait, la ruse du diable, c'est voler votre temps. Et si vous arrivez dans la prière, quand nos têtes, nos idées, je ne sais pas si ça vous arrive, vos idées partent de gauche à droite, commencent à prier, hop, tu commences à penser, hop, tu commences, hop, ça vous arrive-tu? En tout cas, moi, ça m'arrive, là. Donc je combats avec ces choses-là, pareil comme vous. Mais une chose qui est sûre, j'essaie d'emmener mes pensées captives à l'Évangile. Et je commence à prier en langue. Pour moi, c'est ma clé. Je commence à m'ouvrir devant le Seigneur. J'essaie de faire distraction de toute pensée. Donc, je l'ai dit, je ferme, j'essaie de tout fermer le plus. Je veux me laisser concentrer. Laissez-vous pas divertir dans vos pensées quand vous priez. Soyez présents, ça va vous demander de l'allure, ça va vous demander de la persévérance, ça va vous demander de la discipline. Dis avec moi, discipline! Garde tes pensées sur le cœur de Dieu, garde le focus, alléluia! Et c'est pour ça que moi je commence à prier en langue. Donc je me fortifie, je rentre dans l'intercession. Quatrièmement et dernier point, priez jusqu'à avoir la paix. Anne fit preuve d'une grande foi. 1 Samuel 1, 17, Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as exaucée. » Élie va dire maintenant, « Va en paix. Va en paix. » Après avoir entendu ces paroles, Anne va aller en paix. Verset 18, Élie dit que ta servante, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Arrête-toi là. Son visage ne fut plus le même. Combien aimerait ça sortir de la prière de cette façon-là? Ta vie ne serait plus jamais pareille. Ton visage a changé. C'est fort comme prière. Elle n'a jamais été pareille par après. Il y a eu du changement. Dieu a été touché par la prière d'Anne. Anne ne sera jamais plus pareille. Anne a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et le Seigneur l'a récompensé avec ça. Elle a tout donné au Seigneur. Une prière exaucée. Une femme qui est assurée par le Seigneur. La Bible nous dit 11, Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Cette femme, elle savait à l'intérieur de Dieu, de son cœur, que Dieu l'avait exaucée. Amen. Avez-vous ça des fois? Amen. Cette assurance que Dieu vous exauce? Alléluia! Avez-vous cette assurance quand vous sortez de prière? Tu sens que Dieu a entendu ta prière. Alléluia! Cette femme, cette assurance, cette conviction, avez-vous ces convictions ce matin que vous allez enfanter quelque chose que vous vouliez? Bonne question, hein? Avez-vous cette assurance-là? Anne ne voit pas le bébé, mais le bébé est en route. Alléluia! La stérilité a été enlevée parce qu'elle était stérile, Dieu lui a permis. Elle doit vivre avec un sentiment d'assurance, un sentiment de joie et de paix. Sa vie vient de changer. Prophète Samuel qui va arriver à travers la prière de cette femme. Alléluia! Dieu lui a enlevé la stérilité. Et je me suis arrêté un matin sur le mot un peu stérilité. On veut-tu sortir de la stérilité, Église? Non, je n'ai rien entendu. Voulez-vous sortir de la stérilité? C'est une bonne question. Est-ce qu'on veut enfanter, oui ou non? Ou on est content dans notre petit bonheur? Pas grave. Tu sais, le mot, oh, c'est pas grave. Non, oui. Soyez vigilants, soyez fervents. Soyez fervents. Nous voulons sortir d'une stérilité spirituelle. Église, je vous le dis, les temps sont mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une guerre demain matin, mais ça chauffe en tabarouette. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de beau. C'est le temps de la moisson, frères et sœurs. C'est le temps de jamais de s'identifier. C'est le temps de l'enfantement. Alléluia. C'est le temps de sortir de notre stérilité, de nos peurs, de nos craintes. Alléluia. Et d'aller parler au beau nom de Jésus. Anne a offert son cœur. Est-ce que le Saint-Esprit ce matin veut enlever, je le répète, notre stérilité spirituelle? C'est vous qui devez répondre à ces questions-là. Si c'est votre désir, commencez à démontrer votre cœur à Dieu. J'ai connu des gens, je connais des gens dans notre région qui vont travailler, qui commencent à 7 heures le matin, ils se lèvent à 5 heures pour commencer leur journée pour aller en prière. Parce qu'ils me disent, bien, si j'arrive à la maison le soir, il est 6 heures, je suis fatigué, j'ai plus le temps, j'ai plus ici, ils se font violence. Allô? Le vendredi ou les soirées de prière, c'est les réunions les plus importantes, c'est les réunions les plus fades. Lisez le Nouveau Testament. Lisez les apôtres, alléluia, ils étaient ensemble, ils persévéraient dans la prière, alléluia, ils étaient unis. Qu'est-ce qui se passait? Dieu accompagnait par les apôtres avec des signes et des miracles et des prodiges, parce que l'Église, elle priait pour l'enfantement des nouvelles âmes. Allô? Soyons sincères ce matin avec Dieu, soyons sincères dans notre foi, soyons déterminés à toucher le trône de la grâce. Retrouvons notre zèle de la prière. T'en souviens-tu, Manon, au début? Nous, on est de Sherbrooke, donc l'église Pentecôte, pour nous, à l'époque, c'est l'année des réveils. On est tous à peu près dans les années 84, 87, là, à peu près, là, où le réveil était. On est tous, je dirais, on se rejoint dans ça, là. Et c'était le réveil à l'église. Si on arrivait après 6 heures, il n'y avait plus de place dans l'église. Les gens s'arrachaient les places. Mettaient des bibles sur les chaises pour dire que c'était leur place le soir. Serait-tu bon de revivre ça? On voyait des baptêmes du Saint-Esprit. On avait un pasteur charismatique, pasteur Michel, pas Michel Lavoie, là, mais Michel Baudet. Même si Michel, il vient. Alléluia. Mais pasteur Baudet, il avait une onction prophétique sur sa vie. Il y avait une flamme. Alléluia. L'église était pleine. Ça débordait. C'est toutes les années, j'étais là. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit-là. J'ai été sauvé à cette église. Manon a été sauvé à cette église. A été baptisé du Saint-Esprit à l'église. On s'est marié à cette église. On était des fous de notre église. Il y avait des nouveaux, ça rentrait. Il y a eu des problèmes comme toute église, il n'y a rien de parfait. Mais dans l'ensemble, c'était bon. Et c'est ça qu'on doit retrouver, l'enfantement spirituel. Anne a prié pour un bébé. Vous priez pour quoi, Henriette? Vous priez pour un pasteur? Continuez. Frappez. Alléluia. Les réunions, vendredi soir. Textez-vous. Hey, c'est vendredi, il y a une réunion. N'oublie pas, soir, on a une réunion de prière. Oh, ça nous dit, fais-toi violence. Allô? On est confortable. On est bien. On ne dérange pas personne. On fait une belle petite vie tranquille. On est deux à l'église, puis tu vois les bateaux qui sont là au Seigneur ou qui sont les autres. Ah, frères et sœurs, ce matin, soyons comme âme. Ayons un cœur sincère devant Dieu. Que notre cœur, que notre flamme puisse s'alimenter, retrouver la braise. Je termine. Avez-vous encore cette petite braise-là? Avez-vous encore ce petit feu-là pour souffler du bon parfum? On va se lever ensemble. On fait quelque chose ce matin. J'espère que ça vous parle un petit peu, là. Alléluia. On va faire un appel ce matin. Ceux qui sont assez honnêtes, je vais demander aux musiciens s'ils veulent s'approcher, qu'ils peuvent chanter un chant, je ne sais pas lequel, vous pouvez chanter « Sonde mon cœur » ou « Consacre », peu importe les chants, mais qu'ils sont prêts à dire ce matin « Seigneur, je veux retrouver ma flamme. Je veux retrouver le désir de la prière. » Combien sont d'accord avec ça? Alléluia. Levez vos mains ce matin. Dites-le avec moi. « Je veux retrouver ma flamme. Je veux m'engager dans le combat. Je veux voir mon Église avancer. Je veux voir des nouveaux arriver à l'Église. Je veux voir des baptêmes du Saint-Esprit dans l'Église. Je veux voir des baptêmes d'eau dans l'Église. Je veux voir des baptêmes du Saint-Esprit. Je veux voir des guérisons et des délivrances dans mon Église. Ça passe par la prière. Sans prière, nous allons rester sèches. Ce matin, j'ai prêché ce message, je crois de tout cœur, parce que c'est le temps de frapper. C'est le temps de dire, « Seigneur, on vient devant toi avec humilité. Seigneur, voici nos besoins. » Alléluia! Donc, pendant qu'on va chanter un chant, je ne sais pas lequel vous avez pris, mais peu importe le chant, si vous avez encore compris, de dire avec moi, « Seigneur, rallume ma flamme. » Combien sont prêts à dire avec moi, « Seigneur, rallume ma flamme. » Si c'est ça que vous voulez, un matin, avancez. On va prier avec vous.